Demain, c'est la Toussaint, un long week-end pour les Calédoniens qui seront nombreux à se rendre dans les cimetières. L'inauguration ce matin de la résidence du RSMA à la Vallée du Tir, elle s'est déroulée en présence du général Patrice Bellon, commandant du SMA au niveau national. Il est notre invité dans ce journal. Le recensement prévu en 2024 va être reporté. La décision a été prise ce matin par les membres de l'Association française des maires. Pas de foire de Bouraille cette année, mais le comité foire annonce un événement à Nouméa début décembre, le Royal Caledonia Show. Il promet une vitrine de la brousse à Nouméa. La présentation de la deuxième session d'assises de l'année, elle débutera le 8 novembre et devra juger 9 affaires. Et puis la fête du cricket à l'île des Pins, près de 350 jeunes se retrouvent pour 3 jours de compétition amicale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique, journal qui précède un long week-end. Demain, c'est en effet la fête de la Toussaint et c'est un jour férié. Quelques changements à noter dans la grille info de Radio Rythme Bleu. Demain, les matinales seront présentées à 7h au lieu de 6h30 et le journal de la mi-journée à midi au lieu de 11h30. Pas de changement en revanche pour le journal du soir à 17h45. Demain matin, il n'y aura pas d'invité du matin, pas non plus de magazine Transparence à midi. En revanche, vous retrouverez bien le club politique de Radio Rythme Bleu à 16h45. Elisabeth Noir et ses consultants du club seront là pour commenter l'actualité. Ce vendredi 1er novembre est donc un jour férié pour la fête catholique de la Toussaint. C'est une fête d'obligation qui célèbre tous les saints, qu'ils aient ou non été canonisés. C'est ce que nous rappelle l'archevêque de Nouméa, Mgr Calvé.
La fête de la Toussaint, son nom même dit ce que c'est la fête de tous les saints. C'est-à-dire que dans cette seule journée du 1er novembre, on célèbre la fête de tous ceux qui sont canonisés ou qui n'ont pas été canonisés, parce qu'on sait que la miséricorde de Dieu était sans limite, et donc le nombre de ceux qui sont des saints, qui sont dans la gloire de Dieu, qui mériteraient d'être canonisés, eh bien, est plus grand qu'on peut l'imaginer. Et donc, comme disent les textes, c'est une foule innombrable. Personne ne pouvait la dénombrer. C'est le texte de l'Apocalypse qui dit ça. C'est un peu l'histoire de la fête de la Toussaint. Donc, c'est une fête sans limite, mais c'est une fête qui nous rappelle ce qu'on appelle notre fin dernière. La fin dernière, c'est-à-dire ce qui nous attend au-delà de cette vie.
La fête de la Toussaint qui sera célébrée demain dans toutes les paroisses de Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas la confondre avec le jour de commémoration des défunts qui a lieu le lendemain, le 2 novembre. Et comme chaque année, il y aura une forte affluence dans les cimetières ce week-end. Les municipalités, notamment celles de l'agglomération, se sont organisées pour que les Calédoniens puissent entretenir au mieux les tombes de leurs proches et faciliter leur accès aux cimetières. Depuis le début de la semaine, elles ont donc mis en place des dispositions particulières à Nouméa. La ville a disposé des poubelles et des fontaines à eau et pour la 7e année consécutive, elle a aussi remis en place un service de navette gratuite pour les personnes qui ont du mal à se déplacer au cimetière du 4e et au cimetière du 5e kilomètre. Alain Bouffnèche est le directeur de la vie citoyenne pour la ville de Nouméa.
Particularité cette année, on va ouvrir un peu plus tôt. Les portillons, on va les ouvrir dès 6h du matin, parce que quand on arrivait à 7h, on voyait déjà du monde dans le parking. Comme ça, les gens pourront aller un peu plus tôt à la fraîche, notamment pour nettoyer et s'occuper des concessions. Et nous, dès 7h, on sera en place avec une douzaine de véhicules mairie, des agents mairie qui viennent sur leur temps de week-end. Et on proposera aux personnes âgées, aux personnes handicapées, voilà, qui ont des difficultés à se déplacer, de les déposer au pied de la tombe de la concession qui veulent aller visiter et ensuite de les ramener au niveau de l'entrée principale.
Et depuis l'an dernier, la ville de Nouméa a également créé une application qui permet aux Calédoniens, grâce à un plan interactif, de retrouver la tombe ou le caveau d'un membre de leur famille et de consulter les informations liées à la concession.
L'application, effectivement, pour retrouver les défunts et l'emplacement des concessions dans le cimetière du 5e kilomètre a évolué. Elle est mise à jour quotidiennement. On a fait un gros travail de vérification, notamment sur le cimetière du 5e kilomètre. Là, le travail, on va le commencer pour que l'année prochaine, ce soit aussi en place sur le cimetière du 4e kilomètre. Donc, c'est une application qui nous permet, en tapant le nom, la date de naissance ou la date de décès d'un défunt, de retrouver exactement son emplacement dans le cimetière. Le cimetière est organisé comme une ville, hein. On a des quartiers, donc des carrés qui portent un nom de lettre, et ensuite, on a un référencement en allée et en nombre de fosses. Donc, ça nous donne les indications et sur l'écran, ça nous montre exactement physiquement où est-ce qu'elle est positionnée.
Les personnes qui n'ont pas installé l'application sur le smartphone peuvent le faire grâce au QR code affiché à l'entrée du cimetière du 5e kilomètre. Les cimetières de Nouméa du 4e et du 5e kilomètre seront ouverts demain de 7h à 18h et tout le week-end au Mondor, à Païta et Dumbéa. Les horaires d'ouverture des cimetières ont eux aussi été étendus. Et puis notez que la province Nord informe de la fermeture de 12 CMS ce week-end. Cela concerne les centres médico-sociaux de Poum, Point-d'Imier, Conné, Ouégoua, Ponériouin, Kaalagomène, Pwebo, Wailou, Yengen, Poya, Tuo et Vo. Ils n'accueillent plus les patients depuis 16h cet après-midi jusqu'à lundi. Les CMS de Kwawa et de Canala assureront les urgences 24h sur 24 et assureront aussi la permanence de soins de 9h à 11h. La province Nord appelle donc la population à la prudence et à la vigilance en ce long week-end. Le RSMA a inauguré ce matin sa nouvelle résidence à la Vallée du Tir, une résidence qui pourra accueillir 32 jeunes volontaires et cadres du régiment Charlotte Coulson.
L'inauguration s'est faite en présence notamment du haut-commissaire Louis Lefranc et du général Patrice Bellon, le commandant du service militaire adapté au niveau national. Après 5 mois de travaux, la résidence de 375 mètres carrés possède désormais une dizaine de chambres, des parties communes mais aussi des sanitaires et des douches tout neufs. Cette résidence, située près de la zone de Nouville qui concentre les structures de formation, va permettre d'améliorer l'accompagnement de la jeunesse calédonienne au cours de sa formation professionnelle, mais aussi d'accroître la présence du RSMA sur le segment de l'apprentissage. Les explications du lieutenant-colonel Faldoni Révillon, chef de corps du RSMA.
Oui, près de Nouville, dans la vallée du Tir, à proximité immédiate également de la maison du SMA et puis des centres de formation du territoire calédonien, voilà, qui nous permettent d'avoir cette emprise et de développer notre offre de formation au profit des jeunes, effectivement. Oui. En fait, on a expérimenté depuis maintenant 2 ans formation à l'alternance en partenariat avec les chambres des métiers de l'artisanat. Et donc cette expérimentation qui était extrêmement satisfaisante va être dupliquée avec cette fois-ci la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers de la mer et de la pêche.
Et 2 nouvelles filières vont même voir le jour, une première qui va former des matelots et une seconde qui permettra de développer les installations solaires.
Une inauguration qui s'est déroulée, vous l'avez dit Charlotte, en présence du général Patrice Bellon, le commandant du SMA au niveau national, qui est ce soir notre invité. Bonsoir mon général.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation donc au soir de l'inauguration de cette nouvelle résidence du SMA à la Vallée du Tir. C'est une structure qui vous tient à cœur parce qu'elle marque une nouvelle implantation finalement du SMA en Nouvelle-Calédonie.
Exactement, cette nouvelle implantation correspond à l'action complémentaire que l'on peut mener sur Nouméa. Vous savez que la maison du SMA y a pris place en 2013. On était juste en face de ce studio d'ailleurs, qui a pris d'envergure et il était nécessaire pour nous d'avoir un complément. Puisque dans l'idée première de cette maison du SMA, il s'agissait d'héberger aussi des jeunes qui venaient en stage, en formation sur Nouméa. La maison du SMA n'a pas pu accueillir cette possibilité-là. Et donc aujourd'hui, ce nouvel hébergement que nous avons inauguré ce matin nous offre des capacités d'hébergement pour des stages, pour un volume de 32 lits. Et voilà, c'est un vrai bénéfice complémentaire à l'action de la maison du SMA. Je suis très heureux que ça puisse aboutir.
Alors, Général Bellon, vous connaissez bien le territoire puisque vous avez dirigé le SMA en Calédonie de 2012 à 2014. C'est la première fois que vous revenez depuis la fin de votre séjour en 2014. Est-ce que vous avez vu des évolutions au sein du SMA? Est-ce que vous avez senti qu'il avait trouvé réellement sa place aujourd'hui en Calédonie?
Exactement, je pense que le SMA a bien évolué, s'est adapté à son contexte. Je prends juste l'exemple de la création de la compagnie de Bourail, qui nous a donné une possibilité d'élargir l'offre de formation du service militaire adapté en province sud. C'était une volonté de pouvoir accroître nos capacités de formation. Et je pense que ça a permis aussi de participer à un équilibrage correct au sein du territoire entre Koumak, Koné et Bourail. Maintenant, on a des structures qui nous permettent d'être bien présents sur le territoire. Et c'est une vraie, c'était une vraie satisfaction de voir qu'on a pu aller de l'avant sur ce projet-là. Le régiment s'est aussi structuré, s'est consolidé dans ses processus. Lorsqu'on est basculé du groupement du service militaire adapté en 2012 en régiment du service militaire adapté, on a décidé de passer de 300 jeunes stagiaires accueillis à près de 600. Et c'était une vraie révolution à ce moment-là. Et du coup, par rapport à cette transformation, le SMA s'est consolidé dans ses procédures, dans ses manières d'adapter ses filières aux besoins du territoire. C'est en cela où, effectivement, je vois l'évolution de ce dispositif qui correspond aussi à l'évolution de l'ensemble du SMA. En fait, quand je regarde bien tous les régiments que j'ai l'honneur de commander depuis maintenant le 1er août, on voit que le SMA, dans tous les territoires des Antilles à la Guyane, au l'océan Indien et au Pacifique, n'a cessé d'évoluer en permanence. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique du SMA.
Alors, un mot sur le SMA en Nouvelle-Calédonie, parce que cette année 2024, vous le savez, a été particulière. Les jeunes reçoivent une double formation, en quelque sorte. Ils ont une formation personnelle, avec des exigences personnelles, et puis une formation professionnelle. Est-ce qu'ils ont pu suivre leurs deux cursus normalement cette année? Comment le SMA s'est adapté à la crise qu'a connue la Nouvelle-Calédonie?
Alors, je reviens juste sur justement les trois piliers de notre action, qui sont vraiment le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-devenir. Et ça c'est important, et c'est aussi ça marque aussi l'évolution du SMA dans ces structures, dans ces manières de procéder. Certes, effectivement, cet événement dramatique depuis le mois de mai, on contraint l'action du SMA. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, tous nos jeunes sont restés chez nous, au régiment, ont continué leur formation. Ils sont partis en permission. Ils sont quasiment tous revenus. On a un taux de désertion qui est minimal, c'est-à-dire 3% de désertion. C'est ce qu'on a vraiment l'habitude d'avoir en permanence. Donc les formations se sont poursuivies. Je tiens à insister sur le fait que les volontaires ont vraiment pris une part personnelle à faire en sorte de continuer cette formation. Typiquement, lorsque sur un des sites, à Comac en particulier, et même à Koné, des jeunes ont voulu entrer, des émeutiers ont voulu entrer dans les infrastructures, ce sont des volontaires eux-mêmes qui ont repoussé ces personnes. Et on voit bien que, du coup, ces jeunes qui nous font confiance dans leur volonté de s'insérer dans une vie socio-professionnelle active, ont vraiment pris la mesure de ce que peut représenter ce dispositif, qui travaillent à leur profit en permanence depuis la création du SMA.
Général Belon, vous n'attendrez pas 10 ans avant de revenir en Nouvelle-Calédonie une prochaine fois ?
Je n'espère pas. J'espère revenir très bientôt. En tous les cas, j'espère que mon passage en Nouvelle-Calédonie aura permis de montrer à quel point nous sommes l'État. Le commandement du service militaire adapté est attentif à la situation de ce régiment et de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ma visite ici.
Et merci beaucoup d'être passé par les studios de Radio Rythme Bleu.
Je vous remercie.
La suite de ce journal et le recensement prévu en 2024 va être reporté. C'est l'un des dossiers examinés par l'Association française des maires, dont l'Assemblée générale était réunie ce matin à l'hôtel de ville de Nouméa, Elisabeth Noir.
L'Association française des maires a reçu les responsables de l'ISEE pour faire le point sur ce report du recensement. C'est en effet un sujet très important pour les communes, souligne Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris et président de l'AFM. Très important parce que cela détermine les investissements publics.
Plus on a de population, plus on a d'enfants dans les écoles, dans les cantines, plus on a d'enfants dans le transport scolaire. Plus on a de population et puis plus il faut de conduites d'eau, plus il faut de poubelles, plus il faut de compteurs électriques. Et donc tout ça, on doit essayer de l'anticiper. C'est important en ce moment parce qu'on a des déplacements de population et on doit en tenir compte avec la crise. Et puis c'est important parce qu'on est en fin de mandature, que mars 2026, on aura les élections municipales. On va devoir repartir sur un mandat de 6 ans. Et dès le début du mandat, on doit prévoir tous les investissements pour la durée du mandat des 6 années, avec des contrats, ce qu'on appelait des contrats de développement, qu'on appelle maintenant des appels à projets, qui sont financés entre l'État, les provinces et les communes, et qui doivent être négociés en tout début de mandature. Pour négocier ces investissements et ces financements, on doit avoir des chiffres, savoir quels sont exactement les besoins de la population.
Et à l'occasion de cette réunion, l'Association française des maires a émis un avis favorable pour la tenue de ce recensement sur le terrain entre le 15 avril et le 15 mai, avec un rendu des résultats à la mi-juillet 2025. L'Assemblée générale a également travaillé sur le gros dossier que constitue l'évolution des compétences et du financement des communes. Il est examiné depuis plusieurs années déjà, et c'est un projet encore évolutif, mais il trouve une nouvelle actualité avec les divers rendez-vous institutionnels. Il a d'ailleurs été abordé avec le ministre des Outre-mer ou avec le Forum des îles du Pacifique.
C'est un projet qui va nous servir de base de discussion, qui va permettre aux communes de trouver leur vraie place au sein des institutions calédoniennes et enfin de pouvoir obtenir des financements qui leur sont propres, parce qu'aujourd'hui elles sont trop dépendantes du gouvernement, de la province, de l'État. Et quand il y a une de ces collectivités supérieures qui est en difficulté, les communes se retrouvent également en difficulté.
J'ajoute que les maires avaient renoncé à se déplacer au congrès des maires de France auquel ils assistent tous les ans en métropole, mais ils ont été sollicités directement par le président de l'association l'association, David Lisnard, le maire de Cannes, qui souhaite qu'il fasse une communication sur la situation de la Nouvelle-Calédonie. Il pourrait donc intervenir, mais plutôt en visioconférence lors de ce congrès.
Il est 18h, on va marquer une première pause de ce journal. On se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Attention, ça y est, la nouvelle station mobile de Magenta ouvre ses portes. Carburant de qualité, boutique, service au top. Et ce n'est pas tout. À partir du mardi 15 octobre, participez à notre grand jeu Machine à soude et votre passage en caisse. Un plein, un achat, vous êtes éligible. À vous de tenter votre chance. À gagner, des bons d'achat en carburant de 10 000 francs et plein de surprises. Ne manquez pas l'ouverture de la station mobile de Magenta et repartez peut-être gagnant. Rendez-vous dès maintenant dans votre nouvelle station. Mobile, toujours à vos côtés.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal, Jean-François Baudin.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a approuvé cette nuit pour nous le report des élections provinciales au plus tard au 30 novembre 2025. C'est une nouvelle étape après l'adoption du texte en première lecture par le Sénat. Elisabeth.
Une approbation large de la part de la commission des lois lors de cette réunion à laquelle participaient les deux députés calédoniens. Nicolas Mézenf a pris la parole en tout début de séance pour rappeler à ses collègues que ce report des provinciales devait permettre l'ouverture des discussions sur l'avenir institutionnel et pour essayer de trouver un accord sur le corps électoral parce que, quoi qu'il arrive, a-t-il dit, les provinciales devront se tenir avec un corps électoral dégelé.
Ce que je veux vous dire là, chers collègues, c'est que je vous donne rendez-vous en novembre 2025. Parce qu'on a une date butoir, là, c'est novembre 2025. Nous, les non-indépendantistes, on a participé à toutes les négociations depuis 2021. On va retourner demain, grâce à ce décalage des élections provinciales, à la table des négociations. Pour trouver un consensus, on va tout faire pour trouver un accord comme on l'a fait pendant 3 ans. Ma question, elle est simple. C'est que, est-ce que notre partenaire le plus dur en face de nous va vouloir encore une fois de cet accord ou pas? Parce que s'il n'en veut pas encore, parce qu'on lui met dans la tête que la seule solution pour la Nouvelle-Calédonie, c'est l'indépendance malgré le vote des Calédoniens. Il va falloir prendre ses responsabilités en novembre 2025, encore une fois. Et personne ici ne pourra dire que le gouvernement a mal fait les choses, parce que ça aura été la responsabilité du Parlement. J'espère de toutes mes forces, pour que les Calédoniens puissent sortir par le haut de cette affaire, que nous allons trouver un accord politique. Mais ce n'est pas faire nous qu'il faut regarder. Et je vous, pour ceux que ça intéresse, conseille la lecture du discours du président de l'Union calédonienne, Daniel Goa, de ce week-end. Si vous trouvez une volonté de dialogue, d'apaisement et d'accord dans ce texte, vous me faites un petit mail.
Et dans un communiqué publié à l'issue de cette séance, Nicolas Mézenf regrette, et je cite, que l'extrême gauche ait refusé de s'inscrire dans l'esprit consensuel appelé dans ces débats. Il relève que les élus du Nouveau Front Populaire ont encore une fois refusé de s'inscrire dans une logique d'apaisement en se faisant défenseurs des indépendantistes extrémistes et en remettant même en cause le principe d'indépendance de notre justice. Le député Manuel Chibao était présent également à cette séance de la Commission des lois. Il est intervenu lui aussi pour dire que les indépendantistes se prononçaient en faveur du report des provinciales.
Pour rappel, la donne a changé. Aujourd'hui, nous nous prononçons pour le report. Je rappelle ici le vote du Congrès de Nouvelle-Calédonie, ce qui a été mentionné par la mission, qui devait nous permettre de donner du temps, renouer le fil du dialogue. On reste toutefois, mesuré dans l'appréciation qui est portée. Il faut clarifier, comme je l'ai questionné au gouvernement, la méthode et le calendrier. Ne pas occulter la question du report est aussi rattachée à la négociation d'un accord de sortie institutionnelle qui permettra d'asseoir une visibilité.
Après cette approbation par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, le projet de loi organique sera examiné en séance publique. Ce sera le 6 novembre, c'est-à-dire mercredi prochain.
La Calédonie compte aujourd'hui 5 régimes de chômage différents. Aux 2 régimes historiques s'ajoutent le régime chômage partiel nickel, créé pour anticiper la fermeture de KNS, ainsi que 2 régimes liés aux émeutes, un régime chômage partiel exaction et un régime chômage total exaction. Nous avons fait le tour de ces régimes à midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu sur leurs particularités ou encore leur financement. Parmi les constats dressés par le directeur de la CAFAT, Xavier Martin, celui d'une forte augmentation du chômage total de droit commun.
Nous avons été très surpris de l'évolution, en fait, des volumétries de chômeurs total de droit commun indemnisés. On s'est rendu compte qu'un nombre important d'entreprises n'ont pas pu ou n'ont pas voulu recourir au dispositif de chômage spécifique exaction, et donc ont licencié leurs collaborateurs contraintes. Hein. Sûrement, je ne connais pas dans quelles conditions les décisions ont pu être prises. Pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, en période normal, nous indemnisons chaque mois 2 300 à 2 500 personnes au chômage total de droit commun. À la fin du mois, nous devrions être à 5 500 personnes. Donc on n'a plus que doublé, c'est même 2,5 fois, en fait, le volume de chômeurs que nous indemnisons au titre du chômage total de droit commun. Donc évidemment, ça pose un petit sujet de financement qu'il a fallu régler. Il est réglé grâce aux discussions engagées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avec l'État, et donc avec le soutien financier de l'État, qui a donc apporté à 3 reprises des fonds pour arriver au moins à financer les dispositifs spécifiques. Et nous avons reçu l'autorisation, début du mois d'octobre, de pouvoir profiter aussi de ces enveloppes de trésorerie pour financer une partie du chômage total de droit commun.
Et si le régime de chômage total de droit commun a plus que doublé depuis le début des émeutes, c'est que de nombreuses entreprises ont licencié après les émeutes. Elles n'ont pas eu recours, pour une part d'elles, au chômage partiel, qui permet, lui, de garder tout ou partie de ses salariés en attendant et en espérant une reprise de l'activité. Un dispositif qui est donc très important, mais qui pèse aussi sur les entreprises, a expliqué le président du syndicat des commerçants, Ronan Délé.
Il y a des critères à respecter pour en bénéficier aujourd'hui. En l'occurrence, au niveau du chiffre d'affaires, c'est 30% de baisse, par exemple. Donc les entreprises doivent également prouver cette baisse. Le problème, c'est qu'il faut bien payer les employés. Si on ne les paye pas, les rémunère pas, ils ont également des traites, des charges familiales, etc. Donc l'entreprise fait l'avance des fonds, avance les salaires et attend ensuite le remboursement de la part de la CAFAT une fois que la DTE a validé les dossiers. On aimerait que les choses avancent plus vite. Une des très grosses problématiques pour l'entreprise en général, c'est la trésorerie. Toutes les entreprises ont dû demander des reports de crédit, d'échéances, ont dû voir avec leurs fournisseurs pour qu'ils décalent des paiements, ont demandé des aides à l'État qui n'étaient en plus pas à la hauteur de ce qui était espéré. Donc devoir rémunérer leurs salariés, évidemment, c'est une chose et c'est capital pour l'économie en Nouvelle-Calédonie et préserver l'emploi. Mais il faut en retour que le remboursement puisse se faire de façon plus rapide. Là, je vais payer par exemple dans mes entreprises les salaires du mois d'octobre. Je n'ai pas encore la confirmation que mon dossier a été validé. Donc je vais avancer des fonds sans savoir, mine de rien, si ma société va être remboursée de ce qu'elle aura avancé en septembre et en octobre aux employés qui ne pouvaient plus travailler.
Une émission au cours de laquelle ont été évoqués les financements de tous ces régimes, les évolutions possibles et bien d'autres aspects des jeudis de l'économie radio rythme bleu qui sont à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Dans le reste de l'actualité en Calédonie, le comité de la foire de Bourail a présenté aujourd'hui un événement broussard qui aura lieu en fin d'année, le Royal Caledonia Show, Charlotte.
La fête de la brousse aura lieu à Nouméa sur l'hippodrome Henri Millard les 7 et 8 décembre prochains. Un événement qui, attention, ne vient pas remplacer la foire de Bourail puisque cette dernière ne peut avoir lieu qu'à Bourail, a bien insisté Livaï Roy, le président du comité de la foire. Il a également expliqué que ce Royal Caledonia Show serait la vitrine de la brousse à Nouméa.
Oui, c'est une fierté pour beaucoup de broussards, de calédoniens. Ben, je vous promets, avec beaucoup de surprises déjà, mais en tout cas, on va se retrouver avec des jeux équestres d'exception. Il y aura 2 rodéos, il y aura une super nocturne et on va clôturer en fait l'événement par un rodéo aussi. On va se retrouver avec une course de professionnels de stockman, du bulldogging, des beaux cowboys, bien habillés, une fierté de la brousse. On va porter le meilleur des produits de terroir de la brousse, un concours de barbecue, de la viande, des produits locaux et puis plein d'autres choses. Mais en tout cas, beaucoup de joie et c'est la brousse qui s'adapte, c'est la brousse qui vient à vous.
Le Royal Caledonia Show aura donc lieu sur l'hippodrome Henri Millard les 7 et 8 décembre, en attendant le retour en août prochain de la foire de Bourail.
L'effet divers avec d'abord ce carambolage entre 2 véhicules au niveau du pont des Fraisiers de Païta. Une voiture qui s'insérait sur la Save Express a été percutée par un véhicule qui arrivait à grande vitesse. Ça s'est passé aux alentours de 14h dans le sens sud-nord. La conductrice de la voiture percutée a été évacuée au Medipôle. Ses jours ne sont pas en danger. Quant à l'autre voiture impliquée dans l'accident, son conducteur est ressorti indemne. La circulation s'est faite pendant un peu moins d'une heure, le temps d'évacuer les véhicules. Et puis toujours à Païta, un feu de brousse a démarré vers 14h30 à proximité du lotissement de la Sécale. Des habitations ont été menacées, mais les soldats du feu sont intervenus rapidement. Ils ont pu maîtriser l'incendie. 1 hectare est parti en fumée. 8 mois de prison après le vol de plusieurs outils à Ponériouin. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 22 mai entre 21h et 23h. Des individus cagoulés avaient pénétré sur la propriété d'un agriculteur qui, par mesure de précaution, avait choisi de ne pas intervenir. La semaine dernière, les 2 individus ont été interpellés grâce aux images d'une caméra que le fils de la victime a pu fournir à la gendarmerie. Lors des perquisitions, des saisies ont été faites. 33 pieds de cannabis, 6 plants, 124 plantules et un compresseur volé. L'un des auteurs des faits a été déféré et condamné à 8 mois de prison ferme. L'autre sera convoqué au tribunal en juillet 2025. Enfin, la deuxième et dernière session d'assises de l'année se tiendra du 8 novembre au 4 décembre et 9 affaires seront jugées, dont 3 en appel. Des procès qui auraient dû se tenir au mois de mai, puisque cette session d'assises devait initialement débuter le 13 mai. Écoutez l'avocat général Philippe Faisandier.
En raison des événements que tout le monde connaît en Nouvelle-Calédonie, la session du mois de mai et du mois de juin a été annulée. Donc les dossiers qui viennent à cette session qui débute le 8 novembre, qui ne sera donc que la deuxième et dernière session de l'année 2024, sont des dossiers qui auraient dû être jugés il y a quelques mois. Alors cette session comporte 9 affaires, dont 3 qui sont jugées en appel, c'est-à-dire des gens qui ont déjà été jugés une première fois, mais qui ont relevé appel des décisions de condamnation qui avaient été prises. Donc ces affaires sont rejugées. 4 affaires de viol et les autres affaires sont des affaires d'atteinte à l'intégrité physique ou à la vie des personnes, c'est-à-dire sous des qualifications pour une affaire d'assassinat, pour une autre de meurtre et pour 2 autres des coups mortels et une dernière des violences en réunion qui ont entraîné une infirmité permanente.
La cour d'assises a pris un léger retard dans le traitement des affaires en raison de la période de troubles. Malgré tout, les délais sont toujours meilleurs que dans beaucoup d'autres juridictions du territoire national. Le tribunal pourrait toutefois organiser 4 sessions l'an prochain pour traiter le stock d'affaires à juger. Et puis une audience solennelle ce matin à la Chambre territoriale des comptes. Thomas Goveika a été installé en tant que procureur financier et Jocelyne Yallo en tant que secrétaire générale greffière. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des représentants des institutions et de l'État. Le 71e congrès Femmes chefs d'entreprise mondiale s'est tenu la semaine dernière en Australie. 400 femmes chefs d'entreprise étaient réunies à Sydney du 23 au 25 octobre, parmi elles 20 calédoniennes. Au programme des rencontres, business, conférences plénières, ateliers thématiques, écoutez Barbara Vlaminck, la présidente de l'association Femmes chefs d'entreprise en Nouvelle-Calédonie.
Ça a été un moment exceptionnel qui a rassemblé 400 femmes chefs d'entreprise du monde entier, de plus de 40 pays. Et on a pu travailler à cette occasion sur des thématiques qui nous touchent tous pour nos entreprises, donc notamment l'intelligence artificielle, l'économie circulaire et surtout aussi le développement personnel. Et c'est dans ces moments qu'on a réussi justement à échanger avec des femmes très inspirantes et pouvoir partager nos expériences réciproques et justement bénéficier de ces expériences pour nous donner des idées sur d'autres activités à faire ou sur d'autres formations à suivre ou d'autres façons d'aider les autres femmes chefs d'entreprise. Donc ça a été effectivement un grand moment de sororité.
Ce déplacement a également permis aux femmes chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie de nouer des contacts professionnels importants avec des entreprises d'autres pays dans des secteurs comme l'industrie manufacturière, les services, l'artisanat, la formation ou encore l'éducation. Des contacts qui ouvrent dans certains cas la possibilité de collaboration sur des produits spécifiques ou des échanges commerciaux. Il est 18h13, la dernière pause dans ce journal. On terminera cette édition par l'actualité dans la région et le sport.
DNC, demain en Nouvelle-Calédonie. C'est votre hebdomadaire d'information gratuit pour tout comprendre des enjeux locaux. Politique, économie, société, environnement, chaque semaine des analyses approfondies et une perspective unique sur l'actualité. DNC, demain en Nouvelle-Calédonie, chaque vendredi, en version papier et numérique. Retrouvez-nous sur notre site internet dnc.nc et suivez nos actus en direct sur notre page Facebook. Restez informés, restez connectés.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Jean-François Baudin.
Oui, avant de terminer ce journal par le sport et la météo, l'actualité dans la région, elle est marquée notamment par de nouvelles saisies de drogue en Australie. 5 personnes, 5 femmes ont été interpellées. Jean-Pierre Zajac.
2 jeunes ressortissantes britanniques en provenance du Mexique ont été arrêtées à l'aéroport de Melbourne suite à la découverte de 26 kilos de cocaïne dans leur bagage. Une autre Britannique, arrivant de Thaïlande, a subi le même sort après avoir tenté d'importer 26 kilos de méthamphétamine. À l'aéroport de Sydney, ce sont 2 jeunes femmes en provenance de Singapour, une Australienne et une Néo-Zélandaise, qui ont été arrêtées par la police aux frontières après la découverte de 52 kilos de méthamphétamine dans leur valise. La drogue était dissimulée dans 52 paquets étiquetés « thé chinois ». Ces 5 personnes ont été inculpées pour trafic de stupéfiants, un crime passible de la prison à perpétuité. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et puis en Nouvelle-Zélande, 11 Vietnamiens en situation irrégulière ont été expulsés vers leur pays d'origine. Lors de plusieurs perquisitions, la police néo-zélandaise a trouvé à leur domicile des pousses de 3400 pieds de cannabis. Le sport, et c'est la fête du cricket à l'île des Pins. Près de 3500 participants, 9 équipes de la Grande Terre et 4 de l'île des Pins s'affrontent pendant 3 jours dans des matchs amicaux. Sur place, on se réjouit d'accueillir un tel événement. Il permet de faire bouger la jeunesse sportive de l'île, mais aussi de raviver l'économie locale. Bertrand Cotreux est le président du comité de cricket de l'île des Pins.
Au début, on devait l'annuler, l'événement, mais comme c'était une demande de leur part, de gens de mer, nous on a dit... On va maintenir, c'est juste pour oublier un peu, passer des moments agréables entre nous, entre les gens de Nouméa et puis les Dépins. On a fait des cricket, refait un peu, revivre un peu le sport ici à les Dépins. Et puis voilà, ici, on est content de revoir un peu des jeunes à nous de les Dépins, de faire un peu de sport aussi. Dès qu'ils sont arrivés là, ils étaient heureux de jouer. Là, je vois que, là, ils sont, se font plaisir. Ici, ils se font plaisir au cricket. Ça fait un peu de rentrer dans ça pour le tourisme et pour les entreprises de les Dépins, parce que là, le tourisme, comme tout le monde connaît, il vient presque plus, mais voilà, les Dépins, tout doucement, ils se remettent de ce qui s'est passé au début, oui.
Les premiers matchs ont débuté cet après-midi à 13h. Ils se déroulent jusqu'à samedi après-midi. Et puis revenons un instant sur la performance de Sarah Hauser lors de la Aloha Classic à Hawaï. La Calédonienne s'est imposée en début de semaine sur cette étape que beaucoup de sportifs rêvent de gagner. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. La windsurfeuse a dû sompter des vagues malgré des conditions météorologiques défavorables.
Une fois la finale arrivée, là, on a encore eu une grosse surprise avec la météo. On avait une houle un peu croisée d'est et de nord. Et en fait, il fallait réussir à discerner quelles étaient les vagues qui venaient du nord parce que c'était celles qui ouvraient un peu plus. Et donc, pendant longtemps, je n'arrivais pas à trouver ces vagues-là. J'avais que des vagues un peu courtes sur lesquelles je n'arrivais qu'à faire 2 turns et donc je ne pouvais pas avoir assez de points. Et puis dans les 5 dernières minutes, là j'ai trouvé une vague sur laquelle j'ai pu faire 6 turns et donc j'ai réussi à avoir 8 points et à gagner la manche et donc l'étape. De pouvoir gagner sur ce spot, c'est vraiment un véritable honneur, un vrai plaisir. Et puis en plus, c'est la première fois que je gagne alors qu'on a les 2 flottes femmes de la PWA et de l'IWT. Donc c'est spécial.
Voilà, une très belle victoire qui a permis à la Calédonienne de terminer 4e du PWA, le circuit mondial.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. C'est demain le lancement de l'opération Moi sans tabac. Une opération de ce type est-elle efficace selon vous pour permettre aux fumeurs d'arrêter définitivement la cigarette ? Si vous pensez que c'est efficace, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, à une semaine de l'élection présidentielle américaine, 56% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent préférer que Kamala Harris soit élue. Ils sont 44% souhaités que ce soit Donald Trump qui l'emporte. On termine par la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Le temps prévu ce soir et cette nuit, Nicolas.
Alors, cette nuit, les nuages issus du relief se disperseront en soirée et le ciel deviendra souvent clair à peu nuageux. L'alizé s'orientera au secteur S, il soufflera entre 10 et 15 nœuds en général, mais il sera plus faible sur l'ouest. Les températures minimales seront stables sur le nord, comprises entre 17 et 21 degrés, de 12 à 16 degrés dans l'intérieur et jusqu'à 19 degrés à Ouvéa. Demain matin, des paquets nuageux persisteront sur le nord, mais les averses seront faibles et isolées. Ailleurs, le temps sera sec et bien ensoleillé. Sur l'extrême sud, le vent d'est à nord-est se rapprochera des 10 nœuds. Ailleurs, le vent d'est-sud-est soufflera à 10 nœuds en général.
Merci beaucoup, Nicolas. Et avant de se terminer, saluons Harmonie de Robinson. Elle a envoyé son SMS au bon moment ce matin à Radio Rythme Bleu. Elle a envoyé son SMS au 40-20. Figurez-vous qu'elle a remporté 100 000 francs à dépenser où elle veut et quand elle veut. Toute l'équipe de Radio Rythme Bleu la félicite pour son gain. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, être le prochain gagnant. Vous pouvez envoyer dès maintenant RRB au 40-20. Et pour tous ceux qui ont joué mais pas encore gagné, qu'ils soient patients, puisque tous les SMS envoyés, je vous le rappelle, sont remis en jeu pour le tirage du million. Tirage du million qui aura lieu le 30 novembre par tirage au sort, portant sur donc tous les SMS reçus depuis le dernier million gagné. Ça veut dire que vous pouvez jouer encore jusqu'au 30 novembre. Surtout que d'ici là, il y a encore quelques paliers de 100 000 francs à gagner. N'hésitez pas, jouez et restez bien à l'écoute. Voilà, c'est la fin de ce journal.